RFI. Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les usagers de drogue sont confrontés à un triple défi en matière de santé. Accéder aux soins, lutter contre la dépendance et limiter le risque d'infection au VIH-SIDA. Ce triple défi s'impose aussi aux soignants qui prennent en charge ces addictions. L'abus de substances psychoactives est une question de santé publique qui pourtant est loin d'être considérée tant sur le plan légal, médical que moral, de la même façon partout sur la planète. Certains pays, certaines régions, par manque de moyens ou par frein culturel, ne réservent à ces usagers de drogue qu'une réponse répressive et stigmatisante. Ici, au centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, où nous avons enregistré cette émission, c'est à l'inverse une prise en charge scientifique et bienveillante qui est réservée à ces consommateurs de drogue qui sont, entre ces murs, des malades dignes d'être écoutés, traités et encouragés. Le CEPIAD, un site intégré au sein de l'hôpital de Fan qui a ouvert ses portes il y a un peu plus de 3 ans, une structure unique en Afrique de l'Ouest où aujourd'hui un millier de patients sont suivis. 250 y ont intégré le programme de méthadone, se substitue à l'héroïne, prise en charge médico-sociale où l'on échange, on s'occupe, on apprend, groupe de parole, médiation familiale, prévention des co-infections au VIH et aux hépatites, une expertise multidisciplinaire et humaniste dont nous allons découvrir avec vous les acteurs. Et ces acteurs, ils sont 4 avec nous autour de cette table, mais nous donnerons la parole à d'autres soignants et usagers rencontrés dans ce centre au cours de cette émission. On vous retrouve tout d'abord, docteur Idriss Abba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes addictologue, coordonnateur technique du CEPIAD, président de l'association sénégalaise pour la réduction des risques auprès des groupes vulnérables. Avec nous également le docteur Ibrahima Ndiaye, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes psychiatre addictologue. Fatou Fatal Dia, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes assistante sociale, intervenante de terrain et chargée du suivi et évaluation au niveau du programme consommateur de drogues injectables. Et enfin, Mamadou Thio, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médiateur ici au CEPIAD et intervenant de terrain.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Idriss Abba, cette première question, quel professionnel de santé peut-on croiser dans votre centre qui a ouvert ses portes il y a un petit peu plus de 3 ans?
Le CEPIAD a ouvert ses portes en 2015. Le CEPIAD a une équipe multidisciplinaire. Si vous venez au CEPIAD, vous allez rencontrer des psychiatres, addictologues, bien sûr, mais aussi vous allez rencontrer d'autres médecins relevant d'autres spécialités, notamment des pneumologues, notamment des infectiologues, et même des médecins généralistes. Vous retrouverez aussi au niveau paramédical des infirmiers, des travailleurs sociaux. Vous avez aussi une équipe aussi de médiateurs, une équipe qui va sur le terrain, qui rencontre les usagers sur le terrain, qui discute avec eux, qui les oriente aussi vers le CEPIAD. Et c'est cette même équipe aussi qui fait l'accueil au niveau du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar.
Docteur Idriss Abba, pour bien fixer d'emblée les choses, la dépendance aux drogues, c'est une maladie, et c'est une maladie complexe, on l'a entendu, avec justement toute cette quantité de spécialistes, de professionnels qui sont là pour cette prise en charge.
Effectivement, l'addiction est reconnue comme étant une affection du cerveau, une affection chronique, donc qui s'engage dans la durée, qui s'installe progressivement depuis les premières expérimentations jusqu'à l'installation de l'addiction elle-même, qui est la dépendance, qui est une pathologie chronique et qui nécessite une prise en charge dans le long terme.
Est-ce qu'à votre avis, la société sénégalaise en particulier, a conscience de cette dimension de maladie et n'a pas encore une vision morale de l'addiction, qui plus est de l'addiction aux drogues?
Justement, c'est ça qui constitue un peu notre défi, notre challenge. Essayer de changer de paradigme dans la représentation des phénomènes d'addiction au Sénégal. Sur le plan social, il y a une forte stigmatisation des populations. L'usager de drogue, il est vu, il est appelé même comme drogué, il est appelé comme délinquant, ou c'est un fou, un malade mental qu'il faut interner dans un hôpital psychiatrique ou bien qu'il faut amener en prison. Donc vous voyez, et même on pense que même l'usage de drogue même est assimilé à maladie. etc. Mais de plus en plus, il y a un changement qui est en train de s'opérer suite à l'enquête que nous avons menée et qui nous a permis un peu de rencontrer les différentes autorités, en tout cas les différents protagonistes, pour leur montrer quand même qu'il y a nécessité de faire quelque chose. Il y a une urgence d'intervenir sur le terrain.
Alors cette unité psychiatrique, hein, elle est abritée ici dans ce bâtiment, plutôt dans ces bâtiments. Docteur Ibrahim Ndiaye, la addictologie, c'est cette prise en charge des dépendances. Qu'est-ce qui vous a conduit vers cette spécialité? On peut le dire, hein, très rare dans la sous-région en Afrique de l'Ouest.
Je pense que très tôt, quand je faisais ma spécialisation en psychiatrie, je me suis rendu compte que dans la prise en charge des consommateurs de drogue, il y avait beaucoup de choses qui devaient être faites, malheureusement, qui n'existaient pas ici au Sénégal. Parce qu'on se rendait compte que les consommateurs de drogue, on les suivait en suivi de psychiatrie, mais très souvent, ils nous revenaient. Donc c'était comme si c'était un cercle vicieux qui se répétait sans fin. Cela m'a mené à me poser des questions par rapport à l'approche. Est-ce que c'était la bonne approche? Et effectivement, malheureusement, tel n'était pas le cas parce que les consommateurs de drogue étaient considérés comme des malades mentaux. Les consommateurs de drogue, ce ne sont pas des malades mentaux. Certes, il y a beaucoup de comorbidités psychiatriques qu'on retrouve chez cette population-là.
D'autres maladies associées.
Beaucoup d'autres maladies associées, mais ce n'est pas des malades mentaux. C'est pourquoi moi je me suis dit, pour avoir une bonne approche dans la prise en charge des consommateurs de drogue, il fallait faire une formation supplémentaire.
Alors le CEPIAT, c'est une structure médico-sociale. Fatou Faldia, vous êtes impliqué dans ce projet depuis ses tout débuts. D'emblée, ça a été pensé, ça a été imaginé avec cette double entrée médicale et sociale.
Oui, l'approche pour la prise en charge est multisectorielle et multidimensionnelle. Donc nous, on a senti très tôt, parce qu'on a vu que l'expérience du VIH, on a senti très tôt que comme l'addiction est un problème assez complexe, il fallait intégrer quand même la prise en charge psychosociale avec la prise en charge médicale.
Fatou Faldia, comment expliquer justement aux auditeurs qui ne s'imaginent pas forcément ce que c'est ici, dans un centre où il y a des usagers de drogue, le métier d'assistante sociale, en quoi cela consiste? Par exemple, comment se passent les entretiens?
Par rapport à la prise en charge psychosociale, il y a plusieurs activités. Donc, il faut peut-être accompagner des consommateurs. Il y a aussi la prise en charge psychologique, parce que consommation de drogue aussi rime avec quand même des problèmes psychologiques. Il y a aussi des interventions par rapport à l'insertion et à la réinsertion aussi des consommateurs de drogue. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le cadre de la prise en charge psychosociale.
Alors, combien de patients sont pris en charge? Je ne sais pas à qui poser cette question. Docteur Ibrahim Ndiaye voulait peut-être répondre. Aujourd'hui, combien de patients au CEPIAD?
Pour notre fil actif, je pense que si on se réfère sur le bilan, notre dernier bilan, nous avons plus de 2000 patients qui sont au niveau de la fil active.
Quand vous entendez fil active, ça veut dire quoi
précisément? C'est tous les patients
qui reviennent régulièrement.
Donc, pour n'importe quel produit, hein. Mais si on se focalise seulement chez les consommateurs d'opiacés, notamment l'héroïne, on a plus de 250 patients qui sont sous méthadone.
Donc ça, vous avez des chiffres précis, docteur Idriss Abba. On le voit en se promenant ici, beaucoup plus d'hommes que de femmes.
Absolument, c'est ça même, je pense, c'est la particularité de la plupart des centres de prise en charge des addictions. L'addiction étant vue comme étant un problème masculin. Les hommes consultent plus facilement, surtout nous, dans nos zones, dans nos contrées.
C'est une réalité ou c'est une représentation?
Je pense que ça ne traduit pas la réalité, en fait, sur le terrain. Sur le terrain, nous voyons beaucoup plus de femmes qu'ici, au niveau du CEPIAT. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire par rapport à cette facilitation de l'accès aux soins. Il faut qu'on développe d'autres stratégies pour pouvoir accéder à ces femmes qui consomment des drogues.
Alors, on a entendu tout à l'heure ce chiffre de 250 personnes qui étaient dans le programme de méthadone. Plus de 2000 personnes au total, ça veut dire que d'autres addictions sont prises en compte. Vous pouvez un petit peu nous décrire ici le type justement de substances que prenaient les personnes avant de passer le portail et desquelles ils essaient de se défaire?
En fait, comme l'a dit mon collègue Dr Ndiaye, c'est plusieurs produits. Parce qu'ici, on parle de prise en charge intégrée des addictions. Donc, c'est pas seulement un seul produit qui est visé. C'est l'ensemble des produits qui font l'objet ici d'une demande de prise en charge. Et en ce moment, le produit qui fait le plus l'objet de demande, c'est, comme on l'a dit, le cannabis, qui est le produit qui est le plus disponible et qui est le plus consommé. Ensuite, c'est l'alcool. En troisième position, on a l'héroïne. Les réunions aussi, à peu près, on a 400 à 500 dossiers qui sont ouverts. Et sur ces 400 à 500 dossiers, nous avons pu intégrer dans le programme méthadone 250 patients. Mais surtout aussi le crack, la cocaïne crack, qui est très disponible et qui est le plus consommé aussi.
On disait des usagers masculins. Au niveau de l'âge, c'est quoi à peu près le profil des personnes qui viennent consulter, docteur Ba?
Ça dépend des produits. Si on prend l'héroïne, les patients et la cocaïne, c'est ce qu'on appelle les drogues injectables, les patients
sont plus vieux,
sont plus âgés. Donc l'enquête qu'on avait faite, c'était autour de 40%, 42% l'âge moyen, 45 ans. Mais si on prend le cannabis, ils sont beaucoup plus jeunes parce que souvent on démarre par ces produits et ensuite, bon, voilà.
Alors on l'a dit, hein, une approche multiple ici, médicale, sociale et également le recours à l'expérience de certains des patients, l'expertise, le vécu qui est mis au service des autres à travers la fonction notamment de médiateur. C'est bien cela, Mamadou Thio, vous êtes l'un de ces médiateurs?
Absolument, madame. Je suis l'un des médiateurs avec le vécu que vous venez de dire. 30 ans de consommation.
D'héroïne.
Et 3 ans d'inclusion au programme méthadone.
Au bout de combien de temps, justement, de ce programme de méthadone, vous avez eu l'envie, le besoin et l'opportunité de devenir médiateur?
Alors, le métier de médiateur m'a rattrapé. Au début, c'était pour vraiment quitter ce produit-là. Ça, je l'ai ressenti depuis pas mal de temps, mais la peur d'être en manque, m'empêcher de prendre mes propres initiatives, la volonté y était, mais la peur a dominé. Et quand j'ai entendu parler de la venue de la méthadone au Sénégal, je me suis collé dessus, j'ai écouté tous les jours les nouvelles qui me venaient, et jusqu'au jour J. Donc je peux vous dire
que... Vous l'attendiez ?
Je l'attendais vraiment impatiemment. Même quand le bâtiment n'existait pas, je venais pour vous dire que je venais aux nouvelles. J'avais hâte. Et depuis le début, je suis dedans.
Donc ça répondait, ouais, à un vrai besoin, Mamadou Thio.
Absolument.
Est-ce que d'après vous, les usagers, les hommes qu'on croise ici dans le bâtiment sont rassurés de savoir, quand vous leur parlez, que vous aussi, non seulement vous êtes passé par là, mais vous êtes toujours dans cette dynamique-là? Est-ce que ça facilite la confiance?
Oui, oui. Bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissaient, qui m'avaient vu. Quand ils m'ont vu, comment j'étais devenu.
L'évolution de votre situation.
Oui, alors ils sont venus, ils se sont dit que c'était pas du pipeau, excusez-moi du terme, mais que c'était une belle réalité, que la méthadone était vraiment sauveur.
Vous en étiez l'illustration incarnée. Docteur Ibrahima Ndiaye, on entend Mamadou Thio dire « je prends de la méthadone depuis des années » pour quelqu'un de l'extérieur. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas réduire sa consommation au niveau de l'addiction pour se débarrasser de cette habitude?
L'addiction, c'est une maladie chronique, hein. Ça entraîne au niveau du cerveau des modifications qui sont durables. La méthadone, c'est juste une partie de la prise en charge. C'est pourquoi l'approche doit être globale. Dire que la méthadone à elle seule peut régler le problème de la consommation d'héroïne,
c'est faux.
Mais effectivement, le traitement de méthadone, c'est un traitement qui dure très très longtemps. Mais pour avoir la chance de s'en sortir, c'est de l'accompagner d'emblée avec d'autres choses, notamment cet accompagnement psychologique, psychothérapeutique qu'on fait nous à notre niveau. Parce que l'une des sens que le CPIAT a, c'est que les addictologues sont aussi des psychiatres. Bien vrai qu'on a une psychologue, mais quand même, presque tous les addictologues qui travaillent ici au niveau du CPR sont des psychiatres. Donc cet accompagnement aussi se fait au niveau des addictologues.
Docteur Idriss Saba, on a entendu la méthadone pour l'héroïne. Ça veut dire qu'en fonction du type de drogue, de produit, eh bien ça va déterminer la nature de la prise en charge.
Ben absolument. Et même au-delà du produit aussi, c'est en fonction aussi de la personne. Je pense que d'abord par rapport au produit, avec les opiacés, nous avons la chance d'avoir un produit de substitution. Il y en a même deux médicaments de substitution qui sont disponibles sur le marché au niveau mondial. C'est la méthadone, c'est la buprenorphine. Nous avons fait l'option d'avoir la méthadone, qui est le produit le plus accessible, la méthadone sirop. Malheureusement, pour les autres produits, à part le tabac, il n'y a pas d'autres produits de substitution. Donc, mais pour les autres produits, il y a aussi des prises en charge que nous proposons aux consommateurs qui veulent être sevrés ou bien qui veulent réduire leur consommation ou bien qui veulent faire aussi un check-up au niveau de la santé. Et pour chaque personne, nous développons ce qu'on appelle un projet de soins individualisés. Et ça, nous le faisons avec l'équipe, que ça soit l'équipe sociale, que ça soit l'équipe infirmière, que ça soit aussi avec le psychologue qui intervient dans la prise en charge.
Est-ce qu'un certain nombre d'usagers de drogue qui, ici, sont pris en charge, docteur Idriss Abba, ont fait de la prison ou ont subi directement la répression liée à leur addiction?
En fait, oui, c'est ça, c'est lié un peu aussi à ce qu'on appelle l'environnement légal. La plupart de nos patients ont connu la prison. L'enquête Ulcerne l'avait montré, plus de 50% avaient connu la prison. Et nous continuons encore, bref, vrai qu'il y a une certaine tolérance, etc. Nous continuons encore à enregistrer des arrestations, des interpellations, des incarcérations aussi liées à l'usage de drogue parmi vraiment nos patients. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui nous pose beaucoup de problèmes pour, par rapport au suivi. Quelqu'un qui est arrêté, qui est interpellé, qui est sous traitement, ça veut dire l'arrêt des soins parce que la méthadone n'est pas encore disponible en prison. Donc c'est pourquoi nous continuons un peu à discuter avec les autorités chargées de la politique de lutte contre la drogue pour que l'environnement soit beaucoup plus favorable pour faciliter cet accès aux soins. Voilà, l'usage de drogue est interdit, ça on n'y peut rien, mais je pense que les soins doivent être disponibles en tout lieu, tout instant.
Alors on parlait de l'héroïne hein, pour les usagers donc de cette drogue qui veulent arrêter d'écrocher ce médicament dont on parlait, substitution, c'est la méthadone distribuée ici aux anciens héroïnomanes, à certains d'ailleurs qui replongent après. En tout cas, après une consultation, des prélèvements aussi qui sont effectués à l'infirmerie, toujours dans cet espace du CEPIAD, eh bien l'usager intègre le programme et c'est le pharmacien Boutimangan qui est chargé de cette dispensation.
La dispensation de la méthadone, c'est pas facile, c'est pas aisé du tout. La surcharge du travail, le rapport entre les patients, surtout le matin, ils sont assez agressifs. On essaie de s'adapter par rapport à notre capacité de faire. On essaie de s'adapter par rapport aux patients. On fait des efforts, il y a des efforts à fournir. Nous, on a fait que exécuter les recommandations des médecins addictologues.
Là, entre les mains, qu'est-ce que vous avez? Expliquez-moi.
Oui, ça, on a ce qu'on appelle une cupide. Le cupide, ça va permettre de mettre là où on met la méthadone. C'est dosé à 80 millilitres. Et quand le patient vient, on utilise la seringue. Comme que la méthadone est dosée par 10 mg par millilitre, c'est-à-dire que dans 2 millilitres, on a 20 mg de méthadone qui est là. On utilise la seringue qui est beaucoup plus pragmatique. Et quand le patient vient, on mesure sa dose, après on le met au niveau du cupide et on donne au patient.
Alors le pharmacien du CEPIAD est parmi ses patients, cet homme qui a intégré le programme méthadone il y a 2 ans.
Je viens tous les matins. Là, je me lève le matin, je prends mon bain, je prends mon petit déjeuner. Je viens, je prends mon méthadone et directement je vais au boulot. Et ça va, je gagne de l'argent.
Physiquement, à cause de la drogue, vous vous sentiez affaibli? Vous aviez des problèmes de santé?
Avant, je n'avais même pas le temps de manger.
Vous fumiez de l'héroïne?
De l'héroïne, oui.
Vous c'était quoi, du crack?
De crack et de l'héroïne, tous les deux.
Et par rapport à votre famille, ça se passait comment? Ils savaient que vous étiez drogué?
Oui, ils savaient, ils savaient. Certains supportaient, acceptaient. Mais les autres, non.
Et ils vous disaient quoi?
Chaque fois, on me conseillait d'arrêter.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont tourné le dos?
Certains, ouais.
Et ça vous a fait quoi?
Mal. Très mal.
Votre Très papa, mal. Votre maman, ils savaient que vous vous droguiez?
Bon, j'ai perdu mon père et ma mère presque dès le début.
Dès le début de dès votre début. Addiction?
Ouais.
Est-ce que vous pensez que vous vous êtes drogué parce que vous aviez des problèmes? Ou est-ce que vous pensez que vous êtes drogué parce que vous trouviez ça bon?
J'ai eu des problèmes avec la famille, mon frère. On travaille ensemble. J'ai eu des petits problèmes de gauche à droite. J'ai perdu ma maman. Quelque temps, j'ai perdu mon père. Et je suis replongé là-dessus.
Quand vous regardez ce que vous avez fait hier, où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de vous en être sorti?
Ouais, parce que j'avais tellement envie de tirer d'affaire. Maintenant, à cause de ces pierres, bon, là, je me sens très bien. J'ai même confiance sur moi-même. J'ai repris le boulot de gauche à droite. Il y a certains de mes amis, ils voient qu'il y a un changement et ils m'ont accepté. Il y a certains que je travaille ensemble. Ça va beaucoup mieux. Là, je suis vraiment content de ces pierres.
Docteur Idriss Abba, certains peuvent se dire, prendre de la méthadone, c'est quand même se droguer. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur réponds que c'est non. Pour la bonne et simple raison que c'est un médicament qui est prescrit par un médecin, donc qui obéit à un certain nombre de règles. En fait, la méthadone, c'est un médicament qui permet de remplacer la prise d'héroïne. La méthadone, c'est un produit qui est synthétisé, qui est carrément synthétique et qui a les mêmes propriétés sur le plan pharmacologique que l'héroïne, mais qui a cet avantage que... À la place de l'héroïne dont l'effet dure que quelques heures, la méthadone dure toute une journée, plus de 24 heures. Donc la personne qui le prend, il est à l'abri, il peut faire autre chose. Donc il peut reprendre son travail, il peut reprendre ses études, il peut se reconnecter avec sa famille, il peut se reconnecter avec la société.
Parce que les personnes qu'on a rencontrées ici nous ont dit leur budget quotidien, tous les jours, 5 000, 10 000 CFA pour acheter la drogue. Ils ne peuvent rien faire d'autre, ils ne peuvent plus travailler. C'est toujours être en quête d'argent pour cette drogue.
Absolument, c'est un cercle vicieux. Si on a la dose du matin, il faut passer à la dose de l'après-midi. Si on a la dose de l'après-midi, il faut penser à la dose du soir. Et ensuite, on entre dans un cercle vicieux qui fait que la personne n'a plus même le temps de s'occuper de lui-même. Ou de faire quoi que ce soit.
Mamadou Thio, vous êtes personnellement sous méthadone. Quand on en prend, on n'éprouve plus de manque par rapport à l'héroïne? L'héroïne est chassée de notre tête?
Absolument, oui. C'est comme si vous enleviez l'héroïne et que vous mettez la méthadone à la place. Et ça, même dormir ne l'enlève pas, contrairement à l'héroïne. Quand vous prenez de l'héroïne, vous dormez une minute, ça suffit pour que ça disparaisse. Et que dès votre réveil, vous êtes en manque, vous ressentez le manque. Par contre, la méthadone, vous pouvez faire une sieste, vous réveiller, c'est encore toujours là. Et je dirais que ça peut vous prendre 24 heures sans un seul trou de manque.
Et ça change complètement la vie.
Ça change complètement la donne parce que, franchement, l'héroïne ne peut pas faire ça. Vous vous réveillez en manque et la première chose à faire, qui sera la dernière, c'est de trouver la dose.
Est-ce que c'est quelque chose dont on parle uniquement avec le médecin, Fatou Faldia, justement, cette consommation, cette dose, ou c'est quelque chose qui vient aussi dans vos échanges avec vous, assistante sociale?
Je pense que dans cette prise en charge, le CDI a un rôle important à jouer. Il fait partie du dispositif. Les médecins qui sont là les consultent souvent, surtout par rapport à leur prise en charge. Je pense que c'est souvent sur demande. Ou bien, quand le médecin, par exemple, sent le besoin de réduire, surtout la dose, il peut en parler avec le consommateur. Donc, dans cette prise en charge, tout est centré sur le consommateur. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, le consommateur est consulté, il donne son avis, parce que c'est ça qui fait que la personne est observante au traitement.
Avec, justement, quelque chose qui change fondamentalement, c'est qu'avant, cet usager de drogue, on ne l'écoutait plus, on ne le considérait plus. Sa parole n'avait plus de poids. Là, il retrouve une vraie place.
Oui, le traitement valorise la personne. Hein. Je pense qu'il y a le témoignage des consommateurs qui peuvent confirmer ce qu'on est en train de dire. La personne retrouve sa place au niveau de sa famille d'abord et au niveau de la société. Et c'est pourquoi on dit que même la méthadone socialise l'individu. Et c'est important. Et c'est à tous les niveaux, hein, au point de vue professionnel, au point de vue social, familial, médical. Parce que ça permet à la personne quand même de réduire surtout les risques infectieux auxquels ils sont souvent exposés.
Oui, précisément, un méthadone, c'est buvable, pas de seringue, donc plus de risque de transmission du VIH-Sida par voie injectable, alors qu'aujourd'hui, au Sénégal, les usagers de drogue par voie injectable sont particulièrement touchés par cette épidémie. Docteur Idriss Abba, est-ce que vous avez des chiffres, justement, sur le taux de contamination des personnes que vous prenez en charge, ou c'est une information qui reste confidentielle?
Non, pas du tout. C'est une information qu'on a partagée et qui nous a permis d'en arriver là. Pour les consommateurs de drogue injectable, c'est-à-dire ceux qui consomment l'héroïne, la cocaïne et le crack, quel que soit le mode de consommation, la prévalence est de 5,2%. Donc une prévalence qui est 6 fois supérieure à la prévalence dans la population générale qui est de 0,7%. Mais si on prend les injecteurs, c'est ce qui s'injecte effectivement les drogues, la prévalence est à 9,4%. Donc plus de 10 fois supérieure à la prévalence nationale. C'est ça qui nous a permis de faire ce plaidoyer pour les consommateurs de drogue qui sont devenus un groupe vulnérable dans le cadre du programme VIH. Mais si on prend les femmes, c'est ça qui nous a le plus aussi inquiété. Les femmes qui s'injectent ont une prévalence qui est supérieure à 20%.
Parce que là, il y a en plus les populations de travailleuses du sexe.
Justement, mais le risque, il est double. Ce qui fait que des activités spécifiques doivent être menées envers cette population pour pouvoir vraiment les mettre à l'abri par rapport à ces risques.
Nécessite peut-être pouvoir les toucher, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Oui. Effectivement, beaucoup d'hommes pris en charge, 1 sur 10 à peu près, le rapport de genre. Qu'est-ce que vous faites justement en action de terrain, Fatou Faldia, pour essayer de toucher d'autres populations vulnérables? On parlait précisément des femmes usagères de drogue.
Peut-être que c'est un peu changer nos stratégies. Parce que quand on a des problèmes, quand même, on se retrouve et on en discute pour essayer de mettre en place des stratégies qui nous permettent quand même de toucher ces femmes. Ça, je pense que c'est un problème qui n'est pas spécifique au CEPIAD. Partout ailleurs, on rencontre que les femmes ne viennent pas au niveau des structures de soins, surtout en ce qui concerne l'addictologie. Donc, par rapport aux stratégies, on fait des activités uniquement avec les femmes, comme des activités de sensibilisation. Parce qu'on pense que, comme on parle beaucoup de sexe et de drogue, il y a un facteur limitant. Le fait de mélanger les hommes et les femmes peut constituer un frein. Ce qui fait qu'on organise des activités spécifiquement avec les femmes, comme des sorties de nuit, par exemple, qui nous permettent de toucher les femmes qui consomment des drogues et qui font un peu le travail du sexe.
On a bien compris, donc, il y a des activités, Fatou Faldia, qui sont dans les murs et des activités hors les murs, à l'extérieur.
Oui, il y a des activités qu'on fait en stratégie fixe, ici au centre, et les activités qu'on fait en stratégie avancée, c'est-à-dire qu'on sort du centre, on va sur le terrain, au niveau des maisons, au niveau des bars, au niveau des coins de rue, pour rencontrer surtout les CDI en général, et surtout les femmes qui sortent la nuit, qui font la prostitution et qui consomment des drogues.
Alors, des ateliers, des rencontres à l'extérieur du centre et à l'intérieur, ça c'est toujours dans le cadre des activités sociales, des ateliers que vous développez ici avec les personnes qui sont prises en charge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces ateliers?
Globalement, on fait beaucoup d'activités qu'on appelle activités occupationnelles, parce que ça nous permet quand même de réinsérer des consommateurs. C'est des activités d'initiation, comme par exemple la couture, le potager. Nous avons un jardin au niveau du centre, le poulailler. Il y a des activités de sensibilisation, comme des causeries, des groupes de parole, en ce qui concerne l'observance au traitement méthadone. Il y a des activités aussi de batik.
Alors ça, c'est sur le tissu?
Oui, ça, c'est sur le tissu. Nous avons aussi des activités d'ergothérapie, en ce qui concerne l'expression artistique. Il y a des gens qui viennent ici, qui font à travers des tableaux.
Justement, là, dans le local où on est en train d'enregistrer cette émission, autour de nous, il y a des tableaux hein, qui ornent les murs de la case qui est consacrée à ces activités, avec des dessins qui ont été, des peintures qui ont été réalisées par les différents patients. Et puis, si on fait quelques pas à l'extérieur, il y a ce fameux jardin, il y a aussi le poulailler, ce jardin avec Madame Bosso Bayangfal, qui est surveillante au CEPIAD et qui nous ouvre le petit portail de ce jardin.
C'est le micro-jardin. L'activité où il y a Madame Ba qui est la responsable hein, de tout ce qui est activité micro-jardin. On va aller voir Madame Ba. Bonjour Madame Ba. Comment ça va? Présentez-vous, venez.
Bonjour Madame Bousso. Je vais vous faire visiter, vous ouvrir les plantes, comme ça vous allez regarder par vous-même.
Enfin, il y a du persil.
L'épinard. Ça fait quelques jours, parce qu'on venait juste récolter. Pendant le mois de Ramadan, on a beaucoup récolté. Ça, c'est des épinards.
Qui travaille ici sur ces plantations avec vous?
Ce sont les usagers qui sont là. Voilà quelqu'un qui est là.
Bonjour.
Bonjour, maman.
Alors, vous faites du jardinage ici avec Madame Ba?
Oui.
Oui. Le matin, vous venez prendre votre méthadone et après, vous faites le jardinage ici?
Oui, maman.
Le matin, il vient prendre le méthadone et on passe la journée ensemble ici.
Ici, vous travaillez avec des personnes qui sont d'anciens usagers de drogue, qui sont sous méthadone. Est-ce qu'avant, vous aviez un regard sur ces personnes? Est-ce que votre regard a changé en travaillant avec eux?
Bien sûr. Parce qu'avant, on ne savait pas grand-chose. On pensait que c'était leur faute, ils voulaient être des voyous. C'est à force d'être avec eux qu'on arrive à les comprendre, qu'ils ont des problèmes et qu'on doit les aider à s'en sortir. Parce que par exemple, celui-là, il était marié, il avait de l'argent, il travaillait, il avait tout. Mais avec la drogue, il a tout perdu. Il a perdu sa femme, ses enfants. Alors, il est seul maintenant, tu vois. Alors, en le regardant comme ça, comment ne pas l'aider? Parce qu'on sait que celui-là, il en a besoin. Et si on lui donne un coup de main, il peut s'en sortir. Et c'est ce qu'il a décidé. Parce que pour s'en sortir, c'est à eux de décider. On ne peut pas les obliger. Moi, je n'oblige personne à venir ici au champ. Ici pour travailler avec moi. Non, on me demande, je dis non, laissez. Si celui, quelqu'un veut vraiment faire quelque chose, il va venir tout seul. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas que deux. Alhamdoulilah. Dieu merci. Il a commencé à travailler, ses parents l'apprécient, ses frères, ses soeurs, et il est bien.
Donc vous avez un sentiment de réussite?
Bien sûr, parce que je l'ai fait avec deux personnes. Et la troisième personne, c'est avec celui-là. Que
c'est vos stagiaires?
Ouais. J'ai décidé de m'en sortir avec lui. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux faire.
Ça fait plaisir à voir.
Ouais, ouais. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui était vraiment perdu, repêcher quelqu'un. Et le reprendre.
Le sentiment du travail bien fait avec Madame Ba au jardin du Sépiade. Docteur Ibrahim Ndiaye, la finalité de ces activités, c'est quoi? C'est d'occuper le présent ou c'est de préparer l'avenir?
Ici, c'est le patient qui est au cœur du dispositif. Rien ne se fait sans lui, ni contre lui. Et c'est cette approche-là qui est une approche nouvelle en addictologie, parce qu'on ne peut pas forcer la personne à abandonner ses pratiques. Il faut l'accompagner vers un changement. Donc ces activités-là, ce sont des activités d'occupation. Donc une fois que le patient est mis sous méthadone, il a du temps libre. Et ce temps-là, il faut l'occuper. Si on le laisse libre comme ça, le patient peut retourner vers ses anciennes pratiques. On essaie d'impulser quelque chose chez eux, et surtout qu'il va rentrer dans le renforcement de l'estime de soi.
Alors justement, docteur Idriss Abba, on soulignait avec le docteur Ndiaye la volonté, la liberté entre guillemets des patients. On est très loin de l'image de la cure de désintoxication sous contrainte, des personnes qui sont hyper médiquées, une image un peu d'angoisse comme ça. Quand les gens entraient en cure, ils se retrouvaient quasiment prisonniers. On n'était pas très loin de cette approche quasi répressive de la toxicomanie. Ici, ça n'a rien à voir avec ça.
Absolument, ça n'a rien à voir. Le CEPIAD, c'est un service ouvert. C'est une unité ouverte qui se trouve dans un hôpital général. Le CEPIAD, c'est un centre ambulatoire aussi. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas de lit dédié pour une hospitalisation, pour une cure, etc. etc. Il nous arrive effectivement d'hospitaliser des gens pour des cures de sevrage, mais nous le faisons en négociation avec l'accord du patient. Jamais sous la contrainte. Nous travaillons ensemble avec le patient, comme l'a dit mon collègue. Le patient, il est au centre de notre dispositif. Et il y a toute une panoplie de professionnels qui tournent autour de ces pièces, qui l'évaluent, parce que ça aussi, c'est le premier pas, c'est évaluer la demande et ensuite orienter vers un programme spécifique.
On a bien compris toutes ces compétences très très variées. Comment se passe le retour d'expérience pour bien comprendre, pour notifier et pour éventuellement préparer ce qui va se passer ensuite?
Absolument, il y a beaucoup de réunions. D'abord, on a deux moments forts dans la semaine, c'est le lundi où nous étudions le cas des patients du programme méthadone. Mais aussi le jeudi, nous avons une réunion qui réunit toute l'équipe où nous discutons de l'ensemble des cas des patients, mais aussi du fonctionnement de l'unité. En dehors de ça aussi, il y a l'équipe de terrain qui se réunit aussi de façon mensuelle.
Et docteur Idriss Abba, comment on décide qu'un usager comme Mamadou Thio, on va vous redonner la parole, va devenir médiateur et va devenir partie prenante de vos activités?
La médiation, c'est une activité spécifique. Si vous voyez au niveau de l'équipe des médiateurs, c'est plusieurs profils, mais ce qui est le plus important, c'est l'engagement, c'est la disponibilité. Nous avons eu à inclure dans l'équipe des médiateurs des consommateurs qui, au début, étaient actifs, parce que c'est eux qui connaissaient le milieu. Ils facilitaient l'accès aussi à ces milieux. Mais ces médiateurs qui étaient au début actifs ont vu que quand même, ils pouvaient tirer profit de la prise en charge. Et ils se sont engagés à être pris en charge, à être accompagnés. Et ils sont devenus des patients du CEPIAD. Ils sont devenus aussi le relais. Ils servent d'interface entre le centre et les pères qui sont en dehors et qui leur facilitent aussi l'accès aux soins.
Avant d'être médiateur, Mamadou Thio, est-ce que vous aviez participé à certaines des activités dont on a parlé pour réoccuper votre temps?
Oui, oui.
Par exemple,
j'ai participé à des causeries, des groupes de parole. Et ça, c'était quasiment toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. J'étais encore actif, mais dans mon esprit, je me préparais à sortir. Je savais qu'avec l'appui de la méthadone, dès qu'elle arrivait, je pourrais m'arrêter.
Il a suffi que le produit arrive pour que vous passiez le pas ou il a fallu autre chose, un autre déclic?
Non, il a fallu que le produit arrive, quand même, il faut le dire. Parce que j'ai toujours eu peur du manque, je ne l'ai jamais affronté. Je faisais tout pour ne pas l'affronter, mais quand le produit est venu, je me suis jeté dedans.
Mamadou Thiaw, médiateur ici au CEPIAD, hein. Ce terme de médiation, on le retrouve aussi dans votre travail, Fatou Faldial, lorsqu'il faut aller parler à la famille, ça vous arrive d'aller justement à la rencontre directement de celles et de ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer quand il y a un frère, quand il y a un fils qui est en train de plonger. Des fois, il y a cette fonction jusque dans la maison, aller expliquer ce qui est en train de se passer.
Oui, et je pense que je vais même aborder globalement le travail de l'équipe de terrain qui consiste à faire ce travail de médiation familiale et souvent professionnelle, à distribuer aussi du matériel de réduction de risque.
Par exemple des seringues, des préservatifs.
Tout le matériel de réduction de risque, les seringues, les préservatifs et le petit matériel de consommation, à accompagner les consommateurs de drogue vers les structures de soins pour être pris en charge par un système de référence. Aussi à faire des visites à domicile en vue de faire cette médiation familiale, parce que la consommation de drogue aussi rime avec beaucoup de problèmes familiaux. C'est des gens qui ont beaucoup de problèmes au niveau de leur entourage familial. Donc quand la personne fait la demande, ça se fait aussi sur demande et c'est important, quand la personne fait la demande, nous on va au niveau de sa famille et on leur explique pourquoi la personne a cette attitude. Par exemple, les gens...
Et vous êtes reçu comment? Il y a des gens qui sont fâchés de vous voir taper à leur porte, dire voilà... J'essaye de vous expliquer ce qui est en train de se passer.
Pas très souvent, parce que nous aussi, on porte plusieurs casquettes. C'est des maisons qui sont souvent fréquentées par l'équipe de terrain. Donc, on est vraiment très familier à ces personnes. Donc, quand on vient, souvent, on est les bienvenus. Et ça nous permet de négocier un peu cette relation entre le CDI et sa famille qui est souvent heurtée.
Docteur Idriss Sabah, on a souligné à plusieurs reprises que ce qui se passe ici, c'est très original. Hein. Il n'y en a pratiquement pas en Afrique de l'Ouest. Il y en a même sur cette structure-là, pas en Afrique de l'Ouest. Alors, en dehors de Dakar, c'est quoi exactement les recours pour les usagers de drogue qui veulent passer à autre chose?
En fait, en dehors de Dakar, il y a Kaolack qui a déjà une équipe de terrain. Nous avons mis en place de former des gens qui font ce travail aussi de médiation au niveau qui servent d'interface entre les usagers, les familles et le centre. Au niveau de Mbour aussi, nous avons mis en place une équipe de terrain. Non seulement nous avons mis en place une équipe de terrain, mais aussi nous avons formé le personnel et nous les avons équipés et la méthadone est déjà disponible. Donc à Mbour, il y a tout ce qu'on trouve ici au niveau du CEPIAD, en tout cas au niveau médical. Au niveau des régions, c'est plus compliqué. Les autres régions, c'est plus compliqué parce que nous n'avons pas encore démarré des activités, mais c'est un projet. Je pense qu'après Kaolack, la prochaine étape, c'est Ziguinchor, où nous allons. Mais déjà, nous avons formé le personnel médical et paramédical de Ziguinchor, ainsi que le personnel médical et paramédical de Saint-Louis. Nous les avons déjà formés, donc c'est une équipe qui est déjà là. Et quand vous voyez le dispositif que nous mettons en place, il y a plusieurs phases. Il y a une phase où nous montons une équipe. Par exemple, l'équipe de terrain du CEPIAD, c'est une équipe qui est antérieure au CEPIAD. C'est une équipe de terrain qu'on a mis en place depuis 2011. Donc, qui a démarré ce travail, comme il dit, de réduction des risques, mais aussi d'ISC, de sensibilisation, d'information, mais aussi de référence. Parce que c'est des gens qui rencontrent des consommateurs sur le terrain, mais aussi qui le disent, mais si vous avez des problèmes médicaux, vous pouvez venir à l'hôpital, on peut vous accompagner à l'hôpital, vous mettre en rapport avec un médecin, qui peut être un généraliste, qui peut être un infectiologue. Ça, c'est pour faciliter le soin. Et ensuite, on forme le personnel. Il y a beaucoup d'activités de formation pour la prise en charge addictologique. Nous avons formé, je pense, à Saint-Louis, à Thiès et à Ziguinchor. Dans chaque région, nous avons formé une trentaine de praticiens. Donc, il y a déjà un noyau qui est là, qu'il s'agit aussi de renforcer. Parce que nous avons fait une formation par axe qui nous permet un peu, par exemple, Saint-Louis peut fédérer les malades de Louga et de Matam. Vous voyez, Thiès peut converger aussi Mbour, Kaolack, Fatigue, etc. Et Ziguinchor, Tamba, Seydou, etc.
Donc une approche nationale, docteur Ibrahima Ndiaye. Est-ce que d'autres pays de la région s'inspirent de votre expérience?
Oui, tout à fait. Parce que la vocation du CEPIAD n'est pas seulement d'offrir des soins. Hein. Il a une vocation de formation, mais aussi de recherche. Et dans ce cadre-là, on a élaboré des modules de formation pour la prise en charge des consommateurs de drogue injectable. On a aussi ouvert aussi récemment un diplôme universitaire en addictologie. Tout ça pour former...
À l'université
Anta Diop de Dakar, effectivement. Donc, dans le cadre aussi de ces formations, il nous arrive très souvent d'être appelés dans les pays de la sous-région pour pouvoir y dérouler des formations à l'endroit des acteurs de réduction des risques. Récemment, on a été en Guinée-Bissau, on a été aussi au Cap-Vert, au Burkina Faso, etc. Donc, des pays de la sous-région pour cette formation. Il y a aussi, les CPAT aussi accueillent aussi des stagiaires qui viennent aussi de la sous-région, mais aussi d'au-delà. Il y en a qui sont venus du Madagascar, il y en a qui sont venus de l'île Maurice, etc. etc. On reçoit aussi même des stagiaires même qui viennent même de la France, hein. Souvent même des psychologues qui viennent voir un peu ce qu'on est en train de faire ici.
Pour ce partage d'expérience, docteur Idriss Abba, est-ce que d'après vous, on parle du mot aussi stigmatisation, c'est important lorsqu'on évoque les usagers de drogue, est-ce que certaines institutions, les autorités tout simplement, avec des lois répressives qui contribuent à la stigmatisation. Est-ce que le CEPIAD agit en ces termes pour sensibiliser, pour dire plus on sera répressif, plus on aura de difficultés pour atteindre justement ces malades?
Ouais. Ce travail-là, nous l'avons démarré juste après l'enquête. Et je pense que ça a fait son effet. Ça a permis l'implantation du CEPIAD. Ça a permis aussi l'introduction de la méthadone dans la liste nationale des médicaments essentiels, parce que jusque-là, c'était considéré comme un stupéfiant, donc qu'on ne pouvait pas avoir en hôpital et en officine. Donc, ce qui fait qu'il y a eu ce travail. Mais nous travaillons beaucoup aussi avec les autorités judiciaires et les autorités de police, les forces de défense et de sécurité. Nous avons mené beaucoup d'activités avec eux. On a senti ça, l'impact quand même, au niveau politique. Parce que en 2016, le chef de l'État, lors d'un conseil des ministres, avait demandé quand même la réforme des politiques, mais surtout aussi la décentralisation du CEPIAD, ce qui nous a permis un peu de développer toutes ces activités.
Des temps des branches, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut encore convaincre la population, je peux poser d'ailleurs cette question à chacun d'entre vous, convaincre du bien fondé de votre démarche, c'est-à-dire considérer les usagers de drogue comme des malades et non comme des délinquants. Est-ce que c'est quelque chose qui passe dans la société? Je vais faire donc ce tour de table en commençant par vous, Fatou Faldia. Par exemple, dans votre entourage, les gens regardent comment votre métier, travailler au jour le jour avec des usagers de drogue, ils en pensent quoi?
Je pense qu'au début, même nous, on était très réticents. Mais je pense que par la force des choses, on a goûté à la sauce et on a aimé. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est juste ce travail de sensibilisation dont parle le docteur Idriss Abba. Parce que les gens, parfois, ils ont ce comportement négatif parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'information. Donc, il faut aller vers leur expliquer ce que c'est que l'addiction, leur expliquer aussi ce que c'est que la consommation des drogues. Ipso facto, parler aussi des risques qui sont liés à cette consommation, surtout les risques sanitaires, sociaux, etc. Je pense qu'avec l'information, les gens sont mieux préparé, mieux sensibilisé, et on a ce comportement positif qu'on peut ressentir surtout au niveau des familles, parce qu'il y a quelques années quand même qu'on fait ce travail surtout de médiation et de ce travail de réduction de risque, mais maintenant on est très familier avec les proches des consommateurs, on est bien accueillis au niveau des familles, et même certains consommateurs sont accompagnés de leur famille quand ils viennent au centre. Tout ça, je pense que c'est des indicateurs qui donnent des informations sur quand même l'accompagnement des familles qui est important dans cette prise en charge psychosociale, l'accompagnement des familles qui quand même apportent leur soutien aux consommateurs de drogue. Et c'est important.
Et avoir le courage, hein, Mamadou Thiaw, de dire je suis un consommateur de drogue, je parle de mon expérience, et de l'assumer, pour vous, c'est quelque chose d'important?
Ah oui.
De donner une voix aussi à ces personnes qui sont usagers de drogue.
Bien sûr. Quand vous êtes sûr de vous-même, vous n'avez pas peur. Parce que si vous connaissez l'autre côté...
Vous n'avez pas honte.
Non, pas du tout, parce que quand vous êtes consommateur de drogue, vous vivez dans la stigmatisation, chez vous, ça commence chez vous, dans votre famille, ensuite dans la rue et dans la ville. Quand vous arrêtez, vous n'avez pas envie de porter toujours cette casquette, donc vous positivez et vous restez digne. Vous n'avez pas peur de dire « oui, je me suis drogué, alors je ne le suis plus », c'est une vie antérieure, c'est passé. Donc, vous croyez en vous, et c'est ça, celui même qui est prêt à arrêter. Je pense que si vous continuez à vous cacher, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt.
Docteur Ibrahim Ndiaye, vous utilisez tout à l'heure l'expression maladie chronique, mais que l'on arrive quand même à prendre en charge. C'est ce qu'on entend.
Effectivement. Et je pense que le maître mot, c'est la communication. Il faut communiquer, communiquer à l'endroit des populations, leur montrer ce qu'on est en train de faire ici au centre et surtout les évolutions qu'on a eues. Parce qu'on se rend compte que à Dakar, on a une évolution des idées, hein. Quoi qu'on puisse dire. Hein. Je pense que les représentations qu'on avait en 2011 ne sont plus les mêmes qu'on a actuellement en 2018. Mais on se rend compte qu'il y a une disparité des représentations d'une raison à une autre. Par exemple, actuellement, on est en train de faire une étude au niveau d'une région du centre. On se rend compte que le travail initial qu'on est en train de faire ici, c'est celui-là même qu'on avait fait en 2011. Donc, il faut véritablement communiquer, aller vers les populations. Et je pense que les médias ont un rôle important à jouer. Il y aura plus de visibilité par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et surtout par rapport au fait que l'usage de drogue a cette possibilité-là de changer si on lui accorde cette opportunité-là.
Important de changer les esprits, hein, ce sera le mot de la fin. Docteur Idriss Abba, pour vous, ce changement des esprits, vous y assistez? Vous avez l'impression que les choses évoluent?
Absolument, les choses ont beaucoup évolué. Heureusement, on en a besoin. Il faut vraiment qu'on change d'approche, qu'on change de modèle de lutte, qu'on change, comme on dit, de paradigme. À côté du volet répressif, ce qu'on dit à nos autorités, on a besoin de dire non. Le non, il est obligatoire. On a besoin de dire non. Je pense que même pour tout développement, que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'individu, le non a une place qui est importante. Mais je pense qu'il ne faut pas que le non. Il faut aussi qu'il y ait d'autres propositions, il faut qu'il y ait une autre approche. Et nous, ce que nous proposons, c'est une approche santé publique. Pour dire que c'est un problème de santé, c'est aussi un problème de santé, il faut proposer des interventions, des soins spécifiques. Et ça, je pense que ça, quand on le dit, on retient l'attention des gens, ça attire l'attention et ça permet aux gens d'être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus disponibles pour pouvoir accompagner ces personnes. C'est ce que nous avons essayé de faire jusque-là et ce que nous essayons aussi de partager avec nos collègues, mais aussi avec les populations de façon générale.
Et avec nos auditeurs, merci à tous. Hein. Merci de nous avoir reçus dans votre centre, ce CEPIAD, que les auditeurs de Priorité Santé connaissent mieux désormais grâce à vous, Fatou Faldia. Je rappelle que vous êtes assistante sociale chargée du suivi au niveau du programme consommateur de drogues injectables. Merci à vous, Mamadou Thio, médiateur. À vous, docteur Ibrahim Ndiaye, psychiatre addictologue. Et à vous, docteur Idriss Abba, addictologue, coordonnateur technique du CEPIAD. On remercie aussi toutes celles et ceux qui ont bien sûr accepté de répondre à nos questions et à toute l'équipe pour la chaleur de votre accueil.
Priorité santé sur RFI. Dakar, 92 FM. Saint-Louis, 99.7 FM. Ziguinchor, 87.6 FM.
Priorité santé à la rencontre de l'équipe du CEPIAD, le centre de prise en charge intégrée des addictions à Dakar. Une émission enregistrée en juin dernier, réalisée par Richard Rifono, émission préparée par Ophélie Lassen. Et lundi, nous partons pour Madagascar en compagnie d'Igor Strauss. Reportage Priorité santé consacré à la prise en charge du VIH-Sida sur la Grande Île. À demain.
Vous avez suivi Priorité santé avec Suno Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier.